France Inter.
Est-ce qu'il faut reculer l'âge légal qui est aujourd'hui à 62 ans ? Je ne crois pas, pour deux raisons. La première, c'est que je me suis engagé à ne pas le faire. Puis la deuxième raison, c'est que tant qu'on n'a pas réglé le problème du chômage dans notre pays, franchement, ce serait assez hypocrite de décaler l'âge légal. Quand aujourd'hui, on est peu qualifié, quand on vit dans une région qui est en difficulté industrielle, bon courage déjà pour arriver à 62 ans. C'est ça la réalité de notre pays.
C'est Emmanuel Macron pendant le grand débat en 2019, il y a bien sûr une éternité. Ensuite, on aura le candidat Macron de 2022, celui qui voulait repousser l'âge légal de départ à 65 ans. Finalement, ce sera 64, mais mercredi dernier, la suspension de la grande réforme du second quinquennat a donc été votée à l'Assemblée. Et depuis, certains se demandent si ce totem tombé, un tabou, n'est pas en train de s'ériger. En 2027, sera-t-il simplement possible de parler d'âge de départ aux Français ? Supprimons donc toute référence à un nombre, ça c'est l'idée de l'ancien Premier ministre marcheur, Gabriel Attal. Mais la question, elle agite au-delà de Renaissance. Quelles options pousser lorsque le dossier sortira du frigo ? Ne plus parler que de durée de cotisation, imposer des décotes, avancer sur la capitalisation, car on n'a pas congelé le problème. Au contraire, le système garde son gros souci de financement. Dans le monde réel, les salariés du privé partent en retraite à 63 ans et demi. Parmi les 60-64 ans, 4 sur 10 sont encore au travail. Un taux d'emploi qui a augmenté de 10 points depuis 2017. Une révolution silencieuse, mais pour qui est-elle heureuse ? Pourquoi est-ce que nous avons tant de difficultés à nous imaginer rester encore au boulot ? Sans doute à cause des discours et des zigzags politiques, sûrement parce qu'on n'a pas réglé le sujet de la différence d'espérance de vie entre un ouvrier et un cadre. Et enfin, certainement parce qu'en France, le travail est plombé par un déficit de qualité, dégradé par le phénomène de sous-traitance, dégradé aussi par notre style de management. Vertical, manque de reconnaissance, ça, les sociologues le décrivent depuis longtemps, ce management à la française. Médiocre.
On n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd sur France Inter.
C'est votre magazine d'économie, celui où on la discute comme on la vit et comme on la veut, jusqu'à 10h. Toute l'équipe vous souhaite la bienvenue. Valentin Pérez, Céline Hila, Étienne Bertin, Anne-Cécile Perrin, Théo Delobader qui signe les mix et Nicolas Delmas à la console. À mi-chemin de la COP30, on s'interroge ce samedi, comment verdir nos économies ? Notre invitée, c'est Laurence Poirier-Dietz, elle est à la tête de GRDF. Elle pilote donc notre réseau de gaz. Interview vers 9h40. Et puis, exemple d'un pays producteur de pétrole qui tente d'imaginer d'autres chemins pour se développer. Nous serons en Équateur ce matin avec notre reporter Célia Kiré. Nous nous faufilerons aussi dans les coulisses du monde du travail avec Madame Vioboulot. Bonjour Sandrine Foulon.
Bonjour Alexandra, bonjour tout le monde.
Ce samedi, nous avons une question de notre auditeur, Quentin, au sujet des tickets restaurants.
Oui, son employeur ne veut pas lui en donner parce qu'il n'a pas assez d'ancienneté et qu'il télétravaille de temps en temps. Son entreprise a-t-elle le droit de faire ça ? Je vous réponds tout à l'heure.
Et on vous retrouve juste avant 10h. Mais tout de suite, l'actualité de la semaine, elle est décryptée par Béatrice Mathieu. Bonjour Béatrice.
Bonjour Alexandra, bonjour à tous.
Vous êtes grand reporter éco à l'Express. Et Ludovic Subran, hello Ludovic.
Bonjour.
Vous êtes le directeur des investissements de l'assureur Allianz. Alors d'abord, avant le grand débat qu'on a prévu, notre grand débat, j'aimerais un commentaire de votre part sur cette suspension de la réforme des retraites. C'est quand même un épisode inhabituel, mais qu'est-ce qu'on en dit avec nos lunettes éco, Béatrice Mathieu ?
Eh bien que ça va être le débat de 2027, où on reparlera sans doute d'âge, on reparlera évidemment d'annuités, mais il y a un sujet qui est en train de monter, je trouve, qui est celui de la capitalisation. Alors ne nous leurrons pas, la capitalisation ne réglera pas le problème sur les 10 ans de rééquilibrage du système. Et donc, il faudra aussi bien expliquer ça aux Français.
Ludovic Subran ?
Je suis atterré parce que je trouve que c'est vraiment utiliser l'argent
atterré
public.
Atterré par la suspension ?
Ouais, par la suspension. Je pensais que c'est... Bah, parce que je pense que la bonne nouvelle du moment, c'était que le taux d'emploi des 55-64 ans avait augmenté de 0,1, donc il était passé. C'était le plus haut depuis 1975, je crois. Il était à 61,8%. Oui. Et c'était ce fameux effet horizon, quoi. Quand on décale un peu l'âge de départ à la retraite, ça force un peu les entreprises à trouver un job pour tous ces gens qui ont tellement à continuer d'apporter. Moi, j'avoue que tu l'as très bien dit dans ton édito, dans ton introduction, il y a ces sujets d'inégalité, mais qui avaient été résolus en partie par ce qui avait été fait sur la pénibilité. Je trouve que c'est vraiment passéiste de penser qu'on peut rester 20 ans, 25 ans à la retraite avec des cotisants qui sont de moins en moins nombreux, avec un poids sur la fiscalité du travail qui est horrible. C'est très dommage. Et on a loupé notre rendez-vous avec l'histoire. Ouais.
On en reparlera en 2027
ouais,
quand même.
Bah, dans deux ans.
On y reviendra. Mais ça sera forcément une opération un peu nettoyage. C'est-à-dire que ça sera du coup un argumentaire très polarisé en 2027. Et donc ça va encore plus fracturer la société entre les boomers, machin.
Ça sera une opération vérité plus qu'un nettoyage.
Ouais. Ok, bon, on en reparle en 2027 ensemble, si vous voulez bien, Ludovic et Béatrice. Non, mais c'est exactement ce que j'attendais, un regard écho sur cette suspension. Alors maintenant, notre sujet de fond, celui qu'on a choisi pour ce samedi, c'est l'intelligence artificielle, parce que ça va bientôt faire 3 ans, c'était en novembre il y a 3 ans, que le grand public a découvert ChatGPT, et nous aussi. Depuis, l'IA est un secteur en ébullition, mais on entend de plus en plus d'inquiétudes. La semaine dernière, on a vu les valeurs de certaines entreprises d'IA fondre, sur les bourses asiatiques. Avant-hier, c'est l'indice Tretec des États-Unis, le Nasdaq, qui a chuté de plus de 2%. On appelle ça une correction. Est-ce qu'il faut se préparer à voir la bulle de l'IA exploser? C'est notre débat.
L'intelligence artificielle constitue-t-elle une bulle prête à éclater? L'inquiétude gagne aussi bien les marchés que la presse généraliste et spécialisée. Face à des dépenses vertigineuses dans l'IA et des profits pour l'instant insuffisants.
Je pense que les ingrédients actuels sont ceux que nous avons déjà connus au début des années 2000.
Céline Picmal-Pradé, présidente du cabinet de conseil Picmal-Yuton Investments.
Premier ingrédient, des valorisations qui sont stratosphériques. Deuxième élément, vous avez un niveau de spéculation qui est extrêmement élevé aujourd'hui. Et troisième ingrédient, vous avez des dépenses d'investissement qui sont extrêmement élevées et qui vont finir par avoir un impact dans la vraie vie.
Expliquez-nous un peu comment une entreprise qui gagne 13 milliards de revenus par an peut s'engager sur un investissement à 1300 milliards de dollars.
Alors d'abord, nous gagnons plus que ça, ça suffit en fait.
Sam Altman, PDG d'OpenAI.
Je connais beaucoup de gens qui voudraient acheter les actions d'OpenAI. Donc si vous voulez vendre les vôtres, vous n'aurez aucune difficulté à trouver des acheteurs.
AI bubble. La bulle de l'IA.
La vera bolla dell'intelligenza artificiale.
Je pense
que
la bulle va péter, ouais, effectivement. Mais c'est sûr que c'est pas beau là, quand une bulle comme celle-là explose.
Les marchés de la technologie, c'est réputé pour être des marchés de bulles. On a eu ça avec les crypto-monnaies. Ça s'est dégonflé sans faire de mal.
Gilles Babinet, entrepreneur, président de la mission Café IA.
Là, les montants en jeu sont considérables. Hein. On parle de 1 000 à 1 200 milliards qui ont été investis dans les 3 dernières années. Et donc, on pourrait avoir un peu d'inquiétude si ça venait à craquer.
Jeff Bezos, fondateur d'Amazon.
Ce qui se passe quand les gens sont très excités par une innovation, comme aujourd'hui l'intelligence artificielle par exemple, c'est que chaque expérimentation est financée. Les bonnes idées comme les mauvaises. Et dans tout ça, les investisseurs ont du mal à distinguer ce qui relève de la bonne idée et ce qui relève de la mauvaise. C'est probablement ce qui se passe aujourd'hui aussi. Mais ça ne veut pas dire que tout ça n'est pas réel. L'IA, c'est réel et ça va transformer toutes les industries.
Béatrice Mathieu, l'IA, c'est bien réel. Écoutez, vous savez quoi? Vous allez d'abord nous dire, si vous voulez bien, ce que c'est que ce secteur, tout cet écosystème de l'intelligence artificielle.
Alors, l'écosystème IA, c'est d'abord les entreprises qui codent, en fait, ces sortes de programmes et de logiciels. Mais alors, pour coder, elles ont besoin de data. C'est le nouvel or noir, hein, c'est la donnée. Donc, c'est toutes ces entreprises aussi qui produisent la donnée, qui les collectent. Ces données, c'est nous aussi qui les produisons. Hein, quand on achète sur Amazon, quand on lit quelque chose sur Google ou sur l'Express, on produit de la donnée. Alors après, il faut les stocker, ces données. Donc, elles sont stockées dans des data centers où ces machines, en fait, vont être entraînées avec ces données. Elles les ingurgitent, elles sont entraînées, elles apprennent. Et donc, pour faire fonctionner ces data centers, il faut beaucoup d'énergie, énormément d'énergie, de plus en plus d'énergie. Donc, il faut des infrastructures énergétiques. Il faut des puces pour construire ces machines. Des puces de plus en plus sophistiquées et qui coûtent très cher. On verra aussi, ça explique aussi tout le boom de l'investissement. Il faut de l'eau pour refroidir ces data centers. Et puis, en bout de chaîne, en fait, il faut des métaux, des terres rares pour produire ces fameuses puces. Donc, si on redescend toute la chaîne, en fait, on voit que c'est tout un écosystème qui est assez large et qui est pris d'une frénésie d'investissement. Parce que,
un exemple. Nvidia a parlé.
Nvidia, effectivement, c'est cette entreprise américaine qui produit ses puces de plus en plus perfectionnées. Faut juste quelques chiffres, mais le prix d'une puce de Nvidia, c'est entre 30 000 et 40 000 dollars. La puce, c'est tout petit, on les verrait même pas, hein, c'est tout petit, et il en faut beaucoup. Et leur durée de vie, finalement, sur ces secteurs-là, sont assez limitées, puisqu'il y a une innovation technologique très très forte, et donc tous les 12 à 18 mois, il y a une nouvelle puce qui arrive sur le marché, d'où des investissements colossaux qui sont faits par tous les acteurs pour mettre à jour leur modèle.
Et donc le regard de l'investisseur, Ludovic Subran. Pourquoi est-ce que c'est un secteur... Nvidia, c'est l'entreprise qui vaut le plus cher, enfin virtuellement, mais...
Ouais, c'est celle qui a la capitalisation de marché la plus importante. Le point de vue de l'investisseur... 5 000,
c'est quoi le chiffre, 5 000
oh, je sais pas, aujourd'hui, c'est 5 000 milliards de dollars.
De valorisation.
Ouais. C'est surtout... donc c'est non seulement 80 à 90% de la performance de l'indice boursier américain, c'est, selon certains experts, 90% de la création de valeur ajoutée, donc du PIB, de la croissance du PIB américain. Moi, je ne partage pas, mais Jason Furman d'Harvard dit que ça a été 92% de la croissance américaine
l'ancien
du deuxième
conseiller
trimestre.
Conseiller économique d'Obama,
exactement.
Oui.
Moi, je pense qu'on est sur un tiers à 40% de l'économie américaine qui est entièrement due à l'IA. D'aucuns disent, sans l'IA, il y aurait une récession aux États-Unis. Donc, c'est ce qui sauve un peu les miches de Donald Trump, excusez-moi l'expression. Donc, c'est ce qui fait toute l'écho, ce qui fait tout le marché, ce qui aujourd'hui fait aussi tout le reste du marché. Donc, quand on entend la dette privée, ces fameux cafards de Jamie Dimon, une grosse partie de ces lignes de dette sont pour ces entreprises de l'IA. Et c'est surtout au centre de tout ça, OpenAI, Sam Altman, et cette hypothèse très forte que ça ne peut durer que si la capitalisation de marché de OpenAI, qui aujourd'hui n'est pas cotée d'ailleurs, doublait chaque année, voire triplait l'année prochaine. Donc il y a toujours ce truc de...
Attendez, OpenAI, c'est l'entreprise qui a fait ChatGPT.
Ouais.
Voilà,
c'est ChatGPT, donc il y a ce jeune homme qui est au centre de tout ça, et donc et on le voit, hein, tout est basé sur les commandes. Par exemple, Oracle prend 50% en une journée en bourse, parce qu'il y a plein de commandes pour Oracle, qui est ce fournisseur de solutions informatiques, parce que toutes ces entreprises, Nvidia, OpenAI, etc., font des commandes à Oracle. Donc aujourd'hui, il y a une étroitesse de marché très forte, et donc c'est... Bien sûr, pour la raison pour laquelle tout le monde parle de ça, c'est ce qui occupe les esprits sur les data centers. Par exemple, nous, on a fait une étude cette semaine, c'est à peu près 80% du marché de la construction aux États-Unis sont des data centers. Donc ça mange en plus tout le CAPEX, hein, tous les investissements qui pourraient être faits dans d'autres infrastructures critiques ou infrastructures sociales. Donc pour les États-Unis, c'est l'alpha et l'oméga aujourd'hui de leur économie.
Et alors, tant d'argent, est-ce qu'on a un chiffre sur le montant d'investissement qui arrive, Béatrice?
C'est considérable.
Vous avez tous les chiffres en général.
C'est considérable. Alors si on regarde Microsoft, 80 milliards sur l'année 2025. Alphabet, 85. Alphabet, c'est la filiale, c'est la holding de Google. 85 milliards. Meta, entre 70 et 72 milliards cette année. Ils annoncent l'année prochaine 114, 118. Microsoft, 100 milliards. Alors, si on ajoute, en fait, si on fait ce qu'ils appellent les 7 magnifiques, donc c'est Google, Amazon, Meta, Apple, Microsoft, Nvidia et Tesla, on est aux environs de 400 milliards sur 2025. Et j'ai pas mis Open AI là-dedans. Ces chiffres sont astronomiques. Juste une comparaison. Quand, au moment du sommet de l'IA en février dernier à Paris, l'Union européenne a annoncé son plan IA, c'était 200 milliards d'euros. Mais pour tout le temps. Là, je dis, c'est 400. Et l'année prochaine, les estimations, 600 milliards chaque année. Donc, c'est considérable.
Juste un chiffre, hein. Nous on a additionné toutes les promesses qui ont été faites, parce que Donald Trump tient les gens en otage en disant je vous mets des barrières douanières, et si vous voulez les éviter, il faut faire des investissements aux États-Unis. Si on additionne toutes les promesses, qui sont la plupart basalia, ça voudrait dire que la croissance américaine sur les 3 prochaines années, elle serait de 6 à 7% du PIB.
Okay.
Donc, ça, alors qu'aujourd'hui elle est à 1,5. Hein. Donc tout ça pour dire que ça, c'est pour ça que tout le monde parle un peu de bulle, c'est que les montants sont astronomiques, ça donne le vertige, et du coup, ça pose toutes les questions qui vont...
Alors, qu'est-ce que c'est une bulle ?
Alors, les questions que ça pose, c'est cette semaine, par exemple, il y a eu un décrochage sur les marchés de ces fameux magnifiques 7, parce que tout le monde commence à se dire qu'il y a des limites physiques de main-d'œuvre, d'eau, d'électricité. J'imagine que la présidente de GRDF en parlera un petit peu, mais un data center, par exemple, sur une ligne, sur un réseau électrique, il faut lui mettre 2 fois la capacité d'utilisation au cas où il y a un blackout.
Il
faut tout doubler.
On en a parlé la semaine dernière, vous n'étiez pas derrière la poste de radio.
Et donc, il y a cette histoire de... on a atteint... et encore une fois, il y a un problème d'offre d'emploi aux États-Unis, mais encore, c'est pas que les États-Unis. À peu près partout, on se dit, on est en train de toucher les limites physiques, d'approvisionnement de monde plus, etc. C'est quoi une bulle ? Alors ça, c'est une vraie question. Personne ne sait vraiment. Il y a cette déconnexion entre les valorisations et les fondamentaux. Ça, c'est la partie un peu théorique. En vrai, une bulle, c'est comme un trou noir. C'est-à-dire qu'on ne l'observe vraiment jamais directement. On observe ses effets induits autour. Et donc, moi, j'aime convoquer 3 pères de l'analyse des bulles. Irving Fisher, Hyman Minsky et Charles Kinelberger. C'est 3 économistes dont on ne parle pas beaucoup, notamment en France, parce qu'on préfère parler de Thomas Piketty. Et donc, au final...
C'est gratuit.
Non, mais c'était juste pour...
Allez-y, continuez sur la bulle.
Et donc, en fait, on regarde souvent ce que ça induit. Donc, la circularité du capital, on commence à avoir des cas de fraude, on parle souvent de pendule de la bulle, c'est-à-dire on dit on est à 6 heures ou à 7 heures ou à la bulle moins, ou à l'explosion de la bulle moins 4 heures. Aujourd'hui, ce qui est très inquiétant, c'est notamment, les montants, on en a parlé, qui sont déconnectés de l'économie, c'est ces contraintes physiques, mais c'est aussi, au-delà de la circularité, le fait qu'on recycle le capital. Moi, je vous donne un exemple. Meta, par exemple, titrise, c'est un peu compliqué, mais en gros, il laisse passer ses créances commerciales sur le marché, il trouve des gens pour financer tout ça, pour qu'ils puissent réinvestir massivement en IA. Donc en fait, tout le monde se passe la balle.
On se tient la barbichette, c'est ça la définition d'une bulle. En français, c'est ça la définition d'une bulle.
Oui, oui. Alors, vous avez parlé d'OpenAI, mais il y a par exemple une autre entreprise, pour montrer le côté un peu délirant de la situation, il y a une autre qui s'appelle Cursor, qui a été fondée il y a juste 2 ans par quelques étudiants du MIT, qui a levé cette semaine 2,3 milliards de dollars, dont la valorisation vaut 30 milliards aujourd'hui, tout ça en 2 ans. Mmh. Et jamais une entreprise, en fait, n'avait connu une valorisation aussi rapide. C'est encore plus rapide qu'OpenAI. Alors, juste pour aller dans le sens de Ludovic, sur l'innovation financière et l'ingénierie financière qui accompagne aussi tout ce boom, il y a beaucoup d'opacité aussi. Parce que, comme on a dit, il y avait beaucoup d'investissements, en fait. Alors, les 7 magnifiques avaient beaucoup d'argent, donc ils ont pu dépenser beaucoup leur cash. Sauf qu'aujourd'hui, ils ont quand même dépensé tout ce qu'ils avaient dans les coffres. Et donc, ils s'endettent. Mais ils s'endettent comment ? Pas en allant voir leur banquier comme vous et moi en disant est-ce que vous pouvez nous faire un petit prêt ? Ils vont voir des fonds d'investissement qui leur font un truc un petit peu bizarre, c'est-à-dire ils appellent ça des special purpose véhicules, des véhicules d'investissement particuliers qui ne sont pas mis au bilan, à la dette de ces entreprises. C'est du hors-bilan.
Okay,
et donc, il y a une opacité terrible qui entretient aussi l'inquiétude sur ce secteur-là et les risques de correction, en fait.
Voilà, et c'est ça, la bulle, c'est substitution, ça mange c'est tout. Ça. Boucle de crédit, donc expansion du crédit, donc cet effet levier, illusion de liquidité, en fait la monnaie se crée pour créer de la monnaie, et donc on arrive dans un moment où il y a de l'euphorie, et après ça corrige.
Et alors ce qu'on n'a pas encore dit, c'est que l'IA ça gagne pas d'argent, c'est ça. En fait le fonds
ça gagne de l'argent, OpenAI non, mais
ils sont
encore
pas rentables,
une fois, il y a une partie qui est rentable, et donc cela, moi je peux comprendre que ça marche, il y a l'adoption de l'IA qui est rentable, il y a plein d'entreprises.
Les data centers c'est rentable,
oui, et puis les data intégrateurs.
Ah, mais très vite, la rentabilité d'un data center aujourd'hui aux États-Unis c'est 60%.
Amorti, ouais.
Donc il y a des gens qui créent de l'argent. Le problème c'est qu'il y a cette idée que l'IA va changer des métiers entiers, des pans entiers, et que pour ça, on est obligé d'investir maintenant beaucoup d'argent du futur, sans avoir en effet une certitude sur les rendements. Il y a beaucoup d'entreprises hein, qui parient sur un pari de la productivité, c'est-à-dire elles vont investir en IA aujourd'hui parce qu'elles peuvent couper les coûts demain. Ça, personne ne sait si ça va être en effet dans deux ans, est-ce qu'ils vont pouvoir remplacer une partie des emplois ou les augmenter, comme on dit, par l'IA. Donc, il y a toute une partie de ces revenus futurs qui sont hautement hypothétiques.
Et si ça, ouais, et si ça explosait, moi c'est la question que
alors,
je me pose quand
si
même.
Si ça explosait, moi je suis des bulles tech, on en a connu beaucoup. On en a connu une dernièrement qui était celle du métaverse. Rappelez-vous, il y a 3-4 ans, tout le monde ne parlait que du métaverse. Mais donc, Facebook change son nom en Meta parce que c'était métaverse. Ça s'est cassé la figure. Meta a d'ailleurs beaucoup licencié les gens qu'ils avaient.
On n'est jamais passé dans le métaverse.
On n'est jamais passé dans le métaverse.
Et je pense, c'était pas très sympa.
Et je pense que pour le coup, il y a une différence profonde entre la révolution technologique de l'IA et celle du métaverse. Évidemment, on aura une correction sur les cours et il y aura peut-être certains morts, comme il y a toujours dans les corrections. Mais je pense que la révolution technologique qui soutient les cours est beaucoup plus solide qu'une révolution du métaverse qui était un phénomène de mode et qui avait drainé énormément d'argent.
Mais justement cet argent, parce qu'on se dit quand même que tout ce flux d'argent que vous nous avez décrit, Ludovic Subran, il y a peut-être des fonds d'investissement derrière, donc par exemple des retraités américains, comme souvent. Est-ce qu'il va y avoir des perdants si ça explose? Et est-ce que ça peut nous toucher, nous Français? Ça peut être quoi les dommages d'une explosion de bulle?
Alors, est-ce que c'est systémique? Est-ce que c'est comme la grande crise financière 2008-2009? Moi, je ne le pense pas aujourd'hui, même si on voit cette boucle de crédit qui s'active, qui moi m'inquiète. Parce que la boucle de crédit, c'est dans les banques, c'est dans des bilans un peu opaques. Tu parlais de tout ce qui est la finance non traditionnelle, etc. Donc, il faut s'inquiéter. Mais là où tu as raison, Alexandra, le vrai sujet, c'est les retraités américains. En fait, ce qu'on ne dit pas, c'est qu'aujourd'hui, depuis 2020, en fait, on a à peu près 2 à 3 millions de retraités supplémentaires. C'est-à-dire des gens qui ne sont pas retournés bosser après Covid. Et qui, du coup, vivent sur l'augmentation du marché. Parce qu'ils vivent de leur pension de retraite, qui sont ces fameux 401k, et du coup, leur revenu, c'est performance de marché. Et donc, le vrai sujet, c'est encore une fois cette étroitesse. C'est-à-dire que si ça corrige, s'il y a une correction de marché de 10, 20, 30%, on pourrait avoir une vraie grosse récession aux États-Unis parce qu'on aurait plein de gens qui ne pourraient plus subvenir à leurs besoins. Et donc, ça créerait pour Donald Trump une récession, et on sait que Donald Trump n'est pas bon à gérer les crises, c'est Covid, etc. Et donc, ça pourrait devenir, en effet, quelque chose de contagieux, parce que la politique américaine, qui reviendrait à faire encore plus de politique budgétaire, encore plus de politique monétaire, pourrait entraîner une vague de contagion et donc de crise et de récession aussi sur l'Europe.
Ludovic Subran et Béatrice Mathieu, tout ce qu'il fallait savoir sur la bulle de l'IA, c'était dans leur débat. « 9h35 sur France Inter. Dans moins de 10 minutes, la femme qui gère notre réseau de gaz, Laurence Poirier-Dietz, la patronne de GRDF, sera dans ce studio. On parlera ensemble de la promesse du gaz vert. Se passer des énergies fossiles. Aller plus loin que l'accord de Dubaï il y a 2 ans qui appelait à une sortie progressive. Ce sujet n'est officiellement pas à l'ordre du jour de la COP30. Et pourtant, à Belém, en ce moment, on peut sentir l'opposition entre les pays qui espèrent une discussion vers une feuille de route et ceux qui la refusent absolument. Comment sortir du pétrole, a fortiori quand on en a sous les pieds? C'est une équation compliquée pour les grands producteurs, comme l'Arabie Saoudite, et pour les petits, comme l'Équateur. C'est dans ce pays d'Amérique du Sud que nous vous emmenons ce matin, un territoire qui veut penser son développement au-delà du pétrole, grâce notamment à la bioéconomie liée à l'agriculture et à la forêt. 12% du PIB équatorien provient déjà de cultures, comme le cacao, le café, la vanille, et l'Équateur, qui veut arriver à 30% du PIB, mise désormais sur des cultures endémiques de l'Amazonie, comme le moreté, un fruit du palmier. Alors pour créer une filière, il faut d'abord récolter ces fruits au cœur de la forêt. Nous suivons donc notre reporter, Célia Kiré. Elle est guidée par Rodrigue Géot de la Fondation Pachamama. Après 2 heures de route, les voici prêts à embarquer.
Donc là, ça y est, on monte sur la pirogue.
On monte sur la pirogue et direction Daipare. Venga, venga, venga. Eso.
Est-ce qu'il y a des crocodiles dans cette rivière-là?
Des crocodiles un peu plus loin, peut-être en contrebas, plus loin dans la rivière et surtout dans les lagunes.
Des boas?
Des boas, des anacondas, oui.
Et là, on est dans un endroit très préservé, pas du tout abîmé.
On est dans un endroit principalement conservé, avec quand même de plus en plus un impact. Par exemple, là, on voit la construction de la route. et l'activité humaine qui commence. Oui, c'est surtout la construction des routes dans cette région qui impacte de plus en plus la forêt. Oui. Là, tu vois l'arbre du Moreté avec les fruits. Donc là, il y a 1, 2, 3, 4, 5 ramifications. Donc là, on peut en couper un jusqu'à 2 ou 3 et les récolter.
Mon nom est Jaime Yanchapaxi. Je suis conseiller technique en agroforesterie pour la Fondation Pachamama. Le morete, c'est un arbre à palme qui peut pousser de 20 à 50 mètres de haut. Et c'est un fruit qui produit plein de vitamines, de minéraux et est considéré comme un super fruit de l'Amazonie. Il n'a pas besoin d'eau ni de fertilisant, il croît naturellement.
Donc là, on va se diriger vers Puyo pour voir là où on extrait la pulpe de morete.
Je m'appelle Alejandro Carras. Ici, nous sommes dans l'usine. C'est la fabrique où les fruits du moreté sont transformés.
On va visiter ?
Si, claro que si.
Là, on voit les fruits.
Si. Oui,
c'est un fruit qui a la peau dure. Et vous voyez, il a des sortes d'écailles sur l'extérieur. Et d'apparence, il est rouge foncé.
Là, vous prenez votre couteau, en fait, pour ouvrir le fruit.
Le moreté, c'est un fruit de vie. Il est connu pour ses propriétés médicinales, pour les hommes comme pour les femmes, pour les hormones, mais aussi pour la régulation de la digestion. On a fait des tests récemment sur les filles de l'association qui en ont consommé. En fait, le fruit contient des œstrogènes qui font grossir la poitrine. Et ça donne aussi de l'énergie. Les hommes l'utilisent donc comme complément alimentaire.
Aujourd'hui, c'est la pulpe, elle est exportée uniquement au Pérou ?
Oui, jusqu'à aujourd'hui seulement au Pérou. Là-bas, ils le transforment en boisson énergisante. Ils mélangent le moreté avec un fruit orange, un fruit cousin qui pousse aussi dans la forêt, le cucona.
Est-ce que ça pourrait aussi être exporté en Europe et en France ?
Oui, bien sûr, ça pourrait. D'autant que c'est un fruit qui est 100% bio.
Il y a donc l'Occitane qui est intéressé pour des huiles cosmétiques.
Tout à fait. Ils sont venus et ça les intéresse pour en faire des huiles. Les propriétés du fruit les intéressent, notamment les composants qui peuvent protéger du soleil.
Donc c'est un business qui marche.
Oui, absolument. Grâce à la Fondation Pachamama, nous avons un contrat d'exploitation de 5 ans qui court jusqu'en 2027.
Cette usine, aux portes de l'Amazonie, a bénéficié du soutien de l'Agence française de développement. Le but est d'encourager une activité agricole durable, qui n'abîme pas la forêt et qui permet de produire des boissons ou des cosmétiques. Santiago Giraldo, porte-parole de cette banque publique de développement en Amérique latine, est plutôt satisfait de cet investissement. Les perspectives commerciales sont en effet encourageantes.
C'est un nouveau produit qui est tout à fait exportable et exploitable, mais d'une façon durable. Et on le voit déjà, parce que grâce au financement et à l'appui pour lancer la constitution de la filiale et des projets, maintenant on voit qu'ils peuvent continuer tout seul. Ils font des tests avec des académiques, des universités, même des thèses, et pour trouver aussi la façon de l'exploiter dans les milieux pharmaceutiques.
Parce que ça veut dire qu'après, ils peuvent en faire un business aussi, c'est-à-dire ça peut les aider peut-être à mieux vivre.
Exactement, déjà c'est un business en fait. Ils sont déjà constitués une entreprise, si on peut dire comme ça, qui maintenant n'a pas besoin de cet appui pour se lancer. À l'heure actuelle, ils ont déjà des revenus et ils peuvent contribuer à que la communauté continue aussi avec ses propres parcelles et ses propres espaces.
Mais si elle est prometteuse, cette production émerge dans un pays dopé au pétrole. 40% de son PIB dépend de l'extraction de l'or noir, une manne essentielle. Le gouvernement ne veut pas s'en passer, quitte à puiser dans la forêt. Dans les bureaux de son ONG, à Puyo, la directrice de la fondation Pachamama, Belén Paez, est très inquiète.
L'Équateur exploite le pétrole depuis plus de 50 ans et le gouvernement a l'intention d'amplifier cette catastrophe de l'exploitation pétrolière et surtout en territoire indigène. En ce moment, en Équateur, ils parlent de lancer une nouvelle plateforme dans la région. Mais ça va contre la vision des peuples, de la société civile, qui veulent croire à la transition. L'Amazonie, ça ne devrait pas être un territoire où l'exploitation des combustibles fossiles continue à prospérer. On doit redoubler d'efforts pour réduire la déforestation et protéger la biodiversité. On doit inventer de nouveaux modèles de développement, de nouvelles opportunités basées sur les services à l'environnement, à l'écosystème et sur les certificats de biodiversité.
Aujourd'hui, l'Équateur est prêt à puiser le pétrole jusqu'à la dernière goutte. À Quito, j'ai pu rencontrer la vice-ministre dédiée au changement climatique. Elle me l'explique, nous n'avons pas le choix, nous en dépendons, même si le gouvernement veut réduire ses émissions. Il reste plus de 1300 millions de barils dans les réserves du pays, y compris dans la forêt. Elle ne s'interdit pas d'ouvrir de nouveaux puits. La bioéconomie vertueuse ne fait pas le poids face aux hydrocarbures. La transition est difficile. Cette tension n'est pas inhabituelle. On la retrouve dans d'autres pays d'Amérique du Sud. Sébastien Treyer connaît bien ces difficultés des pays producteurs de pétrole. Il dirige l'IDRI, l'Institut du Développement Durable et des Relations Internationales, à Paris.
En fait, beaucoup de pays d'Amérique latine qui ont une grande surface forestière ont envie de miser sur une bioéconomie. En Colombie, la décision du gouvernement, ça a été de sortir des énergies fossiles pour miser sur une diversification de l'économie. Ça parle de la forêt, mais ça parle aussi de l'agriculture et d'autres sources de revenus. Les marchés financiers lui ont fait payer en disant finalement, quand vous exploitez le pétrole, on voit quels sont les revenus que vous allez sortir. Votre plan de diversification de l'économie, il est moins certain. En fait, quand on a du pétrole sous les pieds, c'est difficile de défendre vis-à-vis de la population qui est en demande d'investissement pour le développement qu'on ne va pas l'utiliser. C'est extrêmement délicat de vouloir dire on arrête les énergies fossiles demain parce qu'il y a un certain nombre de pays producteurs pour qui cette ressource finance leur économie aujourd'hui. Et puis d'autres pays consommateurs, d'ailleurs pas forcément que des pays développés, pour qui le pétrole c'est ce qui permet le déplacement au quotidien des motos, des voitures et des bus. Et donc on ne peut pas non plus sortir du jour au lendemain. Ce qui faut, c'est qu'on arrive à se mettre autour de la table pour se dire comment est-ce qu'on sort de manière ordonnée, juste et équitable. Et ça passe par un dialogue sur les trajectoires de développement des pays.
Est-ce que ça veut dire que ces pays d'Amérique du Sud, comme d'ailleurs d'autres pays du monde, hein, notamment en Afrique, vont puiser le pétrole jusqu'à la dernière goutte parce que justement ça rapporte ?
En fait, c'est pas sûr qu'ils vont le faire jusqu'à la dernière goutte. L'exemple de la Colombie montre qu'on peut essayer de faire autre chose si on a suffisamment d'investissements pour le développement. Et pour moi, l'histoire qui est en train de s'écrire, c'est une histoire où, comme le dit l'Agence internationale, de l'énergie, c'est l'économie décarbonée, l'économie électrique qui est la modernité, c'est pas le pétrole. Mais ça va encore prendre du temps, c'est certain. La bataille n'est pas gagnée sur les incitations des marchés financiers, mais ce qu'on essaye de soutenir avec la série de COP qui a lieu tous les ans, c'est de montrer qu'en fait, la plupart des pays du monde sont engagés dans une trajectoire qui va réduire les énergies fossiles.
Envisager l'après-pétrole grâce aux cultures durables, le défi de l'Équateur, c'était le reportage de Célia Kiré.
France Inter. On n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd.
Autre problématique de la transition, parlons à présent du gaz en France avec la directrice générale de GRDF. Bonjour et bienvenue Laurence Poirier-Dietz.
Bonjour Alexandra Ben Saïd et merci de votre invitation.
Alors GRDF, c'est une filiale d'Engie, c'est le principal distributeur de gaz en France. Vous avez, vous Laurence Poirier-Dietz, une image de réseau routier pour décrire votre activité.
C'est pas mal, c'est ça, c'est logique. On a un réseau qui fait 207 000 km et qui alimente 11 millions de clients. Voilà, parce que dans la consommation finale des Français, le gaz tient une part assez importante, hein, presque 20%. Et on peut dire que clairement, c'est une maison sur deux, un appartement sur deux, une maison sur trois, un bâtiment tertiaire sur deux. Donc voilà, c'est très installé pour le chauffage, pour la cuisson, pour l'eau chaude.
Et donc il y a des gros tuyaux, ça c'est pas vous, qui reçoivent le gaz qu'on importe parce qu'on n'en produit pas. Vous êtes plutôt les nationaux. C'est ça l'image du réseau routier ?
Alors, effectivement, il y a l'autoroute et il y a la route départementale. Ouais. Alors, nous, on serait plutôt sur la route départementale. L'autoroute, c'est effectivement géré par le réseau de Natran et celui de Terega, dans le sud-ouest de la France, qui sont les transporteurs de gaz et qui vont effectivement faire le lien entre les points frontières où arrive le gaz ou les terminaux méthaniers et aussi les stockages, hein, qui jouent un rôle très important dans l'ensemble de la chaîne et qui vont effectivement nous amener le gaz en distribution, mais nous aussi, on a maintenant du gaz vert, mais on y reviendra.
On va y arriver. Le rapport annuel de l'Agence internationale de l'énergie nous a dit cette semaine que la consommation de gaz pourrait continuer à augmenter sur la planète dans les 25 prochaines années. En France, on est plutôt dans le mouvement inverse. On consomme de moins en moins de gaz.
Oui, alors en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est dans une transition énergétique et la transition, elle se fait lentement, elle doit s'ordonner, comme vient d'être dit tout à l'heure. Et donc, il y a des pays qui sont déjà en train d'avoir des transitions du charbon vers le gaz, ce qui n'est plus du tout notre cas en France, puisque ça, c'est clairement terminé. Et puis que surtout, en France, et après la crise de 2022, liée évidemment à la guerre en Ukraine, il y a eu un effet de sobriété et d'efficacité énergétique qui a amené à une baisse des consommations d'énergie, à la fois d'électricité et de gaz. Hein. Les deux ont baissé, hein, d'en gros 15%. Et donc, on voit aujourd'hui qu'on a une meilleure efficacité énergétique. Et en tout cas, nous, chez GRDF, notre conviction, c'est que pour aller vers cette route de la décarbonation jusqu'en 2050, hein, il faut consommer moins, il faut consommer mieux et il faut consommer vert.
Mais alors justement, on est en pleine COP. Est-ce que vous, chez GRDF, vous vous préparez à sortir des énergies fossiles et donc du gaz? Et pour poser autrement la question, est-ce que quand on est dans une trajectoire de décarbonation, il y a encore une place pour le gaz?
Alors, c'est deux questions extrêmement importantes. Aux deux, c'est oui. Alors, la réponse d'abord sur qu'est-ce qu'on fait nous ? Nous, on a lancé en 2024 chez GRDF un projet d'entreprise qui s'appelle Mission Décarbonation, qui porte sur trois piliers. Le premier, c'est de développer les gaz renouvelables, dont le biométhane, mais aussi d'autres gaz renouvelables, et j'y reviendrai. Mmh. Le deuxième, c'est nous réduire nos propres émissions, parce que nous aussi, on a des émissions liées à nos bâtiments, à nos véhicules, à notre façon de travailler, à l'exploitation du réseau. Et le troisième pilier, c'est aider nos clients à se décarboner, donc, je le disais, à consommer moins, mieux et vert. Alors, oui, on est effectivement très engagé et ce projet d'entreprise, il a été fait d'ailleurs dans les critères de l'accord de Paris, hein, well below 2 degrees, donc on a vraiment envie de s'inscrire là-dedans. Et on
en dessous des 2 degrés.
Dessous des 2 degrés, tout à fait. Et on croit à une décarbonation du gaz en France avec la capacité à avoir autant de gaz vert en 2050, même plus. Hein, toutes les études montrent qu'on pourrait avoir une capacité à produire plus de gaz vert en France qu'on en consommerait, puisque évidemment, les consommations qu'on imagine avoir en 2050, elles sont bien plus basses que celles qu'on a aujourd'hui.
C'est ça, donc on mettrait, pour arriver à quelque chose de décarboné et pour que, pardonnez-moi, vos tuyaux et les salariés de GRDF aient encore une grande utilité, on garde une utilisation de gaz, c'est ça le plan. Mais le plan, c'est on en consomme moins et c'est pas le même gaz.
On décarbone.
Qu'est-ce que c'est le gaz vert ?
On décarbone et on verdit.
Et où on en est ?
Et alors, on décarbone. Alors aujourd'hui, on est sur une production de gaz vert qui est essentiellement du biométhane. Le biométhane, c'est le bio-CH4 et donc c'est comme le CH4, le méthane, donc c'est la même molécule. Donc la première chose qu'on peut se dire, c'est que cette transition, elle est très douce parce que nos tuyaux, ils savent faire injecter le biométhane produit dans les territoires et la chaudière, la plaque de cuisson, elle peut prendre du biométhane et ça ne change rien à l'utilisation. Ça, c'est extrêmement important.
Bah, j'imagine pour vos investissements, oui, c'est quand même plutôt important de le savoir.
Et pour ceux des utilisateurs et des usagers du gaz.
Mais alors, le biométhane, c'est les agriculteurs. J'avance. Le biométhane, ce sont les déchets agricoles, ce sont les agriculteurs qui les mettent dans des méthaniseurs qu'ils installent et puis on leur rachète. On en est où de ce biométhane ?
En France, on a actuellement sur nos réseaux plus de 800 installations de production de biométhane qui sont toute l'année productrice sur la base des déchets, vous l'avez dit, des déchets agricoles, des effluents d'élevage, des poussières de blé, des pailles, des
cultures. Mais c'est pas encore grand-chose dans la consommation.
C'est à peu près 5% actuellement de la consommation de gaz et on imagine avoir 20% à horizon 2030 en biométhane, avec une dynamique assez importante hein, de projets qui sont en cours, là, qui se préparent. Hein. Nous, on a des demandes de raccordement qui ont beaucoup augmenté. Et donc, on a une vraie dynamique. Ça, c'est la partie agricole.
Ouais, et qu'est-ce qui les motive, les agriculteurs?
Mais parce qu'il faut, tout à fait imaginer que l'intérêt pour un agriculteur, c'est absolument pas le gaz. Le sujet le plus important pour l'agriculteur, c'est le digesta. En fait, quand on a un méthaniseur, on y met dedans... D'abord, c'est un procédé extrêmement naturel, comme on trouve dans la nature. On y met un certain nombre de déchets qui, en général, n'étaient pas utilisés, valorisés. Et à la sortie, il sort trois produits. Trois coproduits, peut-on dire. D'abord, il sort du digesta. Le digesta, c'est cette matière noire qui reste, hein, la matière solide,
c'est la boue
elle est
qui
parfois
reste.
Liquide.
Ouais.
Et ça, c'est utilisé par l'ensemble des agriculteurs, et c'est d'ailleurs ce qu'ils recherchent. Ils dimensionnent souvent leur méthaniseur à la quantité de digesta dont ils ont besoin pour leur ferme. Et ce digesta, il remplace les engrais chimiques. Mmh. Il vient remplacer les engrais chimiques dont on n'est pas du tout souverain. Hein. Les engrais chimiques, aujourd'hui, on les achète clairement à la Russie.
Il y a un sujet,
donc, c'est les digesta. Le deuxième coproduit, c'est le gaz bio. Alors, quand il sort du méthaniseur, c'est du biogaz. Et ensuite, pour qu'il s'appelle biométhane, il lui arrive deux opérations successives. D'abord, on l'épure, c'est-à-dire on lui enlève tout un tas de petites impuretés, on s'assure qu'il n'y ait pas d'oxygène, de l'eau et autres, ce qui est normal. Et puis, on l'odorise.
Oui, parce que le gaz, ça n'a pas d'odeur.
Le CH4 n'a pas d'odeur, de manière naturelle. Ouais. Donc, ça veut dire qu'on l'odorise. Et ça, c'est clairement le travail que fait GRDF. C'est-à-dire qu'il y a un poste d'injection à la sortie de la production. Et on s'assure qu'une fois qu'il répond aux caractéristiques, le pouvoir calorifique, l'épuration correcte, et on a finalement une espèce de barrière, hein, la barrière de péage. Hein, je reprends l'autoroute. Et ensuite... Évidemment, ils rentrent dans les tuyaux. Et on a comme ça un certain nombre de départements qui, aujourd'hui, sont à des quantités très importantes de biométhane dans leur production.
Évidemment, donnez-nous des exemples.
Par exemple, l'Orne, 34%, les Ardennes, 25%, l'Aube, 24%, la Haute-Marne, 20%, la Vendée, qui doit être aussi aux alentours de 20%.
Laurence Poirier-Dietz, en Allemagne, où ils ont fait aussi du gaz vert, il y avait un sujet sur des agriculteurs qui mettaient en culture des produits qui était destiné à la méthanisation et du coup qui n'allait pas à l'alimentation. Nous, c'est pas le modèle français.
Alors, en fait, le modèle allemand, il n'est pas justement de production de gaz vert, mais il a été un modèle assez intensif de méthaniseurs sur les fermes agricoles qui sont très grandes et avec des cultures dédiées, en particulier du maïs. Et ces méthaniseurs importants en Allemagne, ils ont plutôt fait un biogaz, ils ne l'ont pas épuré et ne l'ont pas odorisé, mais ils en ont fait de l'électricité. Et donc, il y a très peu d'injections de gaz vert en Allemagne parce que les réseaux ne sont pas organisés de la même manière. Il y a un grand nombre de distributeurs de gaz qui sont plutôt à la maille des villes, hein, des Stadtwerke. Et donc, du coup, on n'a pas cette même dynamique. Mais en tout cas, en France, le modèle français de la méthanisation qui date d'une quinzaine d'années, hein, il y a une quinzaine d'années que la France a décidé de lancer cela, eh bien, il s'est vraiment construit à contrario de l'exemple allemand.
Bon, et on en parle dans les COP, c'est ma dernière question, et on en parle dans les COP, les gaz verts.
Dans la COP 30, là, clairement, il y a vraiment une prise de conscience que, d'abord, il faudra de toutes les énergies pour faire la décarbonation, que l'électrification ne répondra pas à tout. On a besoin, j'ai dit, c'est à peu près 20% de la consommation en France de gaz pendant toute l'année, mais pendant toute l'année. Au moment de l'hiver, c'est plutôt la pointe de chaleur, le besoin lié au froid, il est couvert à 50% par du gaz. Donc ça veut dire que dans le mix énergétique, dans la résilience du système, on a besoin du gaz. Et dans la COP, là, ce qu'on voit clairement à Belém, c'est qu'il y a un plaidoyer autour du rôle des bioénergies, hein, ce qu'on peut faire avec des bioénergies, à la fois les carburants bioénergies et puis les molécules vertes. Et que clairement, maintenant, un grand nombre de pays se disent qu'il faudra pousser sur ces nouvelles énergies renouvelables pour assurer une décarbonation, une transition et puis ne pas rendre les systèmes trop fragiles.
Le plaidoyer pour le gaz vert de Laurence Poirier-Dietz, la patronne de GRDF. Merci d'avoir accepté l'invitation d'On n'arrête pas l'écho.
Merci à vous.
On n'arrête pas l'écho sur France Inter.
Sandrine Foulon, notre auditeur Quentin enchaîne l'émission en CDD dans une société de production. Son employeur lui explique qu'il n'aurait pas droit au ticket restaurant parce qu'il faut au moins 2 mois de présence dans l'entreprise et qu'en plus Quentin travaille ponctuellement. Alors il se tourne vers vous, est-ce que c'est légal ?
La première chose à savoir est qu'un employeur n'est pas obligé d'accorder des titres restaurants. Il peut mettre en place une cantine d'entreprise ou verser une prime déjeuner. S'il choisit de distribuer des tickets resto, il n'y a pas de montant minimum, mais il doit prendre en charge au moins la moitié de la somme. La seconde chose à retenir, Quentin, est qu'à partir du moment où certains de vos collègues en reçoivent, le traitement doit être égalitaire. Il faut bien sûr que la journée de travail soit coupée par une pause repas et que le salarié ne soit pas en congé ou en arrêt maladie. Mais à part ça, les CDD, les intérimaires, les temps partiels, les stagiaires, les apprentis, tout le monde doit en bénéficier pour chaque jour travaillé. Votre responsable a faux sur toute la ligne. Il n'y a pas de délai de prévenance pour obtenir des tickets resto et il ne peut pas vous les sucrer quand vous êtes en télétravail. Cette question revenait très souvent pendant la crise sanitaire. Il était déjà impossible de discriminer des employés en fonction de leur présence. C'est toujours le cas. Si votre patron n'est pas convaincu, Quentin, c'est le moment de lui glisser sous le nez 2 arrêts de la Cour de cassation qui confirment ça. Ils sont tout frais. Ils datent d'octobre.
Et pendant les débats budgétaires, il a beaucoup été question de taxer ces titres restaurants, Sandrine. On pourrait les considérer au fond comme des avantages en nature ou alors du salaire différé ?
Alors oui, il y avait bien un projet d'instaurer une contribution patronale de 8% sur les tickets restaurants et les chèques vacances, dont le budget de la Sécu. Le gouvernement espérait en tirer 1 milliard d'euros. Pour rappel, les employeurs sont exonérés de cotisations sociales sur ces titres dans la limite de 7,26 euros. Les députés de tous bords ont rejeté cette taxe. Plus de 5 millions de salariés bénéficiaires. C'est aussi 14 milliards d'euros injectés dans les restaurants et les commerces alimentaires, selon la Commission nationale des titres restaurants. Alexandra, pour répondre précisément à votre question, techniquement, un ticket resto n'est pas un avantage en nature, comme une voiture de fonction. Ce n'est pas non plus du salaire différé, comme de l'intéressement, mais ça reste un complément de salaire. Pour beaucoup d'employeurs, c'est une façon de doper le pouvoir d'achat sans augmenter les salaires. Ça leur coûte moins cher. On comprend que vous y soyez attaché, Quentin. Si on considère que la part de l'employeur est de 6 euros en moyenne, ça fait une économie pour un salarié de 1320 euros par an. Un avantage indéniable pour vous, pas pour les caisses de la Sécu. Le piège s'est refermé. C'est devenu une niche sur laquelle il va être très difficile de revenir.
Sandrine Foulon, ma vie au boulot.